Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Cécile Poignant, experte en tendance, conférencière dans le monde entier et que j'ai connue à travers Pierre-Henri, son mari. Et en fait, je t'ai invité parce que on voit bien que les marques, elles essayent d'innover dans tous les sens. On parle tout le temps d'IA, de chatbot, impression 3D, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent que les marketeurs, ils savent plus très bien où donner de la tête. Ils savent plus comment innover, ils savent pas très bien quoi regarder. Et comme toi, ton métier, c'est quand même de suivre les tendances, de former ces personnes-là à suivre les tendances. Ça m'intéressait qu'on ait cette conversation. Qu'est-ce que tu recommanderais, c'est quoi ton premier conseil finalement, à des personnes qui savent qu'elles doivent innover, mais qui ne savent pas par quel bout le prendre?
Moi, je dirais que la première chose, c'est d'arriver à retrouver un état de curiosité.
Ouais.
En fait, cet état-là, on l'a quand on est enfant. Quand on a à peu près 3 ans, il y a beaucoup d'études qui disent que la moyenne de questions qu'on peut poser par jour à ses parents, c'est 300. Les petites filles un petit peu plus que les petits garçons, désolé, c'est comme ça. Donc c'est un âge où on se pose des questions sur absolument tout, c'est-à-dire qu'on prend rien comme étant là parce que c'est là. On sait pourquoi le ciel est bleu, dans quelle matière sont faites les ombres, où est-ce que l'univers finit, et avant les parents de tes parents et les parents de tes parents de tes parents, il y avait qui et comment ça a commencé. Et en fait, c'est un état qui est absolument, de mon point de vue, merveilleux.
J'allais
et
le dire.
qu'il faudrait retrouver. Et c'est cet état de curiosité, d'ouverture au monde, d'éveil, en fait, qu'il faut retrouver. Le mot curiosité, c'est assez intéressant. En fait, ça vient du latin cure, donc comme dans une cure. Et en fait, il y a l'idée de prendre soin. Et donc, quelque part, la curiosité, pour moi, c'est aussi prendre soin de soi. Et en redevenant curieux, ben, on se réouvre au monde et du coup, on peut s'alimenter avec des nouvelles choses. Et c'est tous ces nouveaux entrants qui permettront d'avoir des idées pour des innovations.
Alors, la première objection qu'on va me faire si je dis ça, c'est « oui, mais j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps d'être curieux, j'ai pas le temps de me poser toutes ces questions.
Ben ça, c'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait, on fait plein de choses où on peut les faire en étant dans un état de curiosité. C'est-à-dire qu'on va faire ses courses au supermarché, ben, au lieu de, quand on fait la caisse, d'être en train de maugréer parce que ça prend trop de temps et parce que ça va pas assez vite, ben, on peut regarder ce que ses voisins ont mis dans leur panier, ce qu'ils achètent, on peut éventuellement commencer à discuter avec eux. Quand on fait la queue au cinéma, on peut faire pareil. Quand on est dans le train, même si c'est pas très poli, on peut regarder un peu ce que font les voisins, qu'est-ce qu'ils regardent comme film ou qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils lisent encore des magazines papier ou plus du tout, est-ce que tout le monde a un iPad ou pas. Donc la curiosité, pour moi, c'est quelque chose qui peut se travailler. C'est comme un pianiste fait des gammes, un peintre se met à faire des dessiner pour garder un bon coup de crayon. La curiosité, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à travailler.
C'est marrant que tu dises ça parce que donc moi je fais de la photo, j'aime bien la photo et je vois bien que quand j'ai un appareil photo dans la main, j'ai une curiosité qui est différente, c'est-à-dire que d'un coup, je regarde les choses de manière différente, je regarde ce que je peux prendre en photo et d'ailleurs, je pense que n'importe qui a eu cette expérience quand il se balade dans une ville, il la regarde de manière totalement différente quand c'est sa ville dans laquelle il habite ou si c'est une ville dans laquelle il visite. Je pense que cette curiosité, c'est un peu à ça que tu fais référence quelque part.
Ouais, c'est cet état d'esprit d'ouverture au monde. Et en fait, malheureusement, surtout en France et heureusement dans certains pays de Scandinavie, c'est un peu différent. Mais nous, on a malheureusement un système scolaire en fait qui formate beaucoup les enfants et qui les empêche d'être curieux. Et d'ailleurs, une des phrases que je déteste le plus, c'est la curiosité est un vilain défaut. C'est vraiment une phrase absolument terrible. Je crois que je déteste celle-là et je déteste aussi le monde est stable. Le monde n'est pas stable et la curiosité, c'est tout à fait sain. Donc, en fait, on a un système scolaire qui a tendance à étouffer la curiosité, qui finalement ne demande pas gens de chercher par eux-mêmes, d'avoir du libre arbitre, d'avoir une pensée personnelle. Et le problème, en fait, c'est que ces jeunes enfants, quand ils se retrouvent après étudiants, et ben, ils sont toujours un peu dans la même dimension de non-curiosité. Et après, ils arrivent sur le marché du travail, ils commencent à bosser, et là, on leur dit « soyez créatifs ». Et on leur demande d'être créatifs alors qu'à aucun moment on leur a donné la possibilité de nourrir leur curiosité. Donc c'est là où il y a une espèce de double contrainte, en fait. C'est ne soyez pas curieux, mais soyez créatifs. Alors qu'en fait, c'est pas possible. Pour être créatif, faut être curieux.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup, quand on parle d'intelligence artificielle, de l'accroissement nécessaire de l'intelligence émotionnelle, mais une intelligence émotionnelle qu'on n'apprend pas du tout à l'école, parce qu'on a une intelligence qui est très rationnelle, on est très mathématique, en particulier en France, mais c'est vrai un peu partout. Donc c'est aussi à ça. Alors bon, malheureusement, les gens qui nous écoutent, ils peuvent toujours revoir l'éducation de leurs enfants, mais par contre, pour eux, c'est un peu trop tard.
Non, je crois pas, en fait. Je crois pas que ce soit trop tard. Je crois que il faut accepter, en fait, il faut avoir envie d'apprendre des choses. Ouais. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont dû commencer à faire du yoga ou de la méditation. Et moi, je me souviens très bien que le premier cours de yoga auquel j'ai été, donc aujourd'hui, on va apprendre à respirer. Et évidemment, moi, j'étais là, je me disais dans mon fort intérieur, je disais, mais c'est complètement con cette idée, on va apprendre à respirer. Évidemment que je sais respirer puisque je suis ici, je suis présente, je suis vivante, donc je respire. Oui, mais en fait, non. On ne sait pas respirer, on ne sait pas vraiment marcher. En fait, c'est des choses essentielles qu'on n'apprend pas. Et donc, il faut après. Et la curiosité, c'est pareil. En fait, la curiosité, c'est savoir regarder. Et on voit beaucoup de choses, mais de façon assez rapide, globale, sans se poser des questions. Et la curiosité.
Voir, on regarde son téléphone en permanence.
Voir aussi, on essaye de faire un peu trop de multitasking. Enfin, je suis mal placée pour le dire, je fais que ça tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est juste apprendre à se poser des questions, c'est-à-dire regarder la même chose que ce qu'on a sous les yeux comme d'habitude, mais se poser des questions. Et ça, je dirais que c'est comme commencer à apprendre à respirer ou apprendre à marcher correctement en posant le pied et en posant son poids du corps correctement. Ça s'apprend à tout âge. Donc il n'est jamais trop tard.
Est-ce qu'il y a une méthode? Alors du coup, si tu devais me dire, ou si je te demandais par exemple, ou ce que tu dis par exemple en conférence, en formation. Par où je le prends, en fait? Comment je commence? Quel genre de questions je vais me poser? Enfin, tu t'y parlais de quand je fais la queue au supermarché, quand je marche dans la rue, quand je veux prendre le métro.
Ça peut être absolument des questions qui peuvent, par exemple, juste des constatations. Tu passes dans les rayons du supermarché et tu dis quand même, qu'est-ce qu'il y a maintenant comme aliment liquide? C'est absolument impressionnant. Au début, ça commençait avec juste le gazpacho. Maintenant, il y a des quantités innombrables de variétés de soupes froides, de légumes. Il y a plein de jus de fruits frais pressés. Alors, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que ce linéaire augmente? Et on se dit, finalement, peut-être que les gens ont plus envie de mastiquer, qu'ils ont envie. Et puis voilà, donc en fait, les questions, ça peut être vraiment juste regarder des choses, se poser des questions et aussi s'obliger à faire des petits exercices. Par exemple, pour s'obliger un peu à sortir de ses habitudes. Alors très simplement, on a l'habitude, on sort du métro, on va du métro à son lieu de travail. Au lieu de prendre le même chemin que d'habitude, on essaye de prendre une autre rue. Et puis on essaye de voir ce qui se passe. Donc en fait, c'est un peu une sorte de rééducation. Moi, je sais par exemple, quand je prends l'avion, j'essaye toujours de prendre des magazines que je lis pas d'habitude, sur des sujets en fait qui m'intéressent pas forcément. Alors je prends évidemment les choses que j'ai envie de lire, hein. Je suis pas maso non plus, mais j'essaye toujours de me dire tiens, et je vais prendre un truc spécialisé sur, je sais pas, l'équitation ou spécialisé sur les 4x4, enfin n'importe quoi, un domaine vers lequel a priori j'ai pas forcément d'inclinaison en premier, mais je me dis tiens, voyons voir un peu ce qui se passe là. Donc en fait c'est juste profiter des moments de vacuité pour ramener des questions, et ces questions elles peuvent aussi se rattacher en fait à un travail sur lequel on est en train de commencer à avancer. Ça peut être par rapport à d'autres choses, et puis après, une fois qu'on commence à se poser des questions, on peut aussi commencer à faire des liens, c'est-à-dire entre ce qu'on a vu à tel endroit et ce qu'on a lu par ailleurs, ou ce qu'on a entendu à un dîner, ou la conversation qu'on a eue avec son meilleur copain, et là tout d'un coup les choses s'alimentent. Donc en fait c'est juste une question C'est comme un petit trésor. Il faut juste commencer à mettre un petit quelque chose dedans.
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu parlais des soupes, je me disais oui, mais par exemple, moi, si je travaille dans la chaussure, le fait que les gens mangent des aliments liquides, ça m'intéresse pas. Mais en fait, ça t'intéresse parce que finalement, tu arrives à faire des liens au bout d'un moment, je crois. Dans qu'est-ce qui plaît aux gens, pourquoi, enfin quand tu te poses les questions, je crois que tu arrives à des conclusions qui finalement touchent ton secteur d'activité, même si finalement tu t'intéresses à des choses qui ne sont pas directement liées en fait.
Oui, parce que je pense que justement c'est aussi le problème qu'on a, pour arriver à innover, pour arriver à avoir des idées, pour être créatif, en fait il faut arriver à sortir des silos, parce que l'autre problème avec en plus du fait que quand on est enfant on nous aide pas tellement à développer notre curiosité, c'est qu'après, une fois qu'on est adulte et qu'on commence à être dans le monde du travail, souvent on se retrouve enfermé dans un silo. Donc quelque chose de totalement vertical. Et en fait, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la vraie vie. Parce que ça veut dire que moi, je suis bien la même personne quand je monte dans une voiture, quand je vais acheter à manger, quand je vais m'acheter une crème pour la figure, quand je pars en vacances ou quand je consomme des séries sur Netflix. C'est bien la même personne. Donc il ne faut pas me mettre dans un silo tourisme, dans un silo food ou dans un silo mobilité.
Non, par contre, on essaie de trouver des patterns. Quand on est marketeur, on essaie de trouver des patterns, de dire ben, finalement, c'est, j'en sais rien, une femme de plus de 50 ans en l'occurrence, qui habite tel endroit, qui consomme tel truc. Donc, du coup, elle est, peu importe, bobo ou peu importe comment on définit. On va essayer de faire ça, en fait, de faire du cluster client en fonction.
La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce truc-là, on aimerait beaucoup que ça marche. C'est un peu comme le Coca-Cola, dont on vraiment, c'est très pratique d'imaginer que c'est le même goût dans tous les pays. Donc, on aimerait bien que ça marche. La réalité, c'est que ça marche plus du tout comme ça. Ouais. Ça veut dire que je peux en même temps aller acheter une montre chez Hermès et en même temps acheter une lessive premier prix. Parce que pour moi, la lessive premier prix, ça me va très bien. Et par contre, j'ai envie d'avoir au poignet quelque chose qui soit différent. Donc, je crois justement qu'il faut, c'est en voulant trop rationaliser les choses, trop mettre les gens dans des cadres, en fait, qu'on s'empêche d'avoir des idées. Et dans l'innovation, il y a plusieurs façons d'innover. Il y a l'innovation implémentive, où on va juste trouver une nouvelle gamme à un produit, où on va juste trouver une petite amélioration, un nouveau goût pour des yaourts, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. Et puis après, il y a vraiment... l'innovation disruptive, ça il y en a pas souvent. Le meilleur exemple c'est l'objet qu'on a tous avec nous maintenant, qui s'appelle un smartphone, qu'on allume,
qui empêche la curiosité, ce que je disais tout à l'heure, mais franchement je pense que les gens restent dans leur petit univers, ils regardent pas en fait.
Oui et non, ça empêche, ça peut empêcher, mais ça dépend ce que tu lis. Moi quand je lis des articles dans le train, je suis ravie d'avoir ma revue de presse que j'ai fait moi-même à disposition sur mon smartphone.
Mais souvent tu t'enfermes. Tu joues au jeu, tu es sur les réseaux sociaux, tu perds du temps alors que tu pourrais t'ouvrir.
Mais parce que c'est vrai que pour nourrir cette curiosité, c'est pas seulement en ligne qu'on va la nourrir, c'est aussi dans la vraie vie, c'est aussi en allant boire un verre avec quelqu'un, c'est aussi en voyageant, en se déplaçant, en allant dans une ville étrangère, en acceptant de se perdre. Il y a une phrase qui dit ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre.
Ouais.
Et bon, moi j'aime bien ça, j'aime bien cette idée que justement c'est cette curiosité qui permet de voir des choses, de découvrir les choses autrement. Et je pense que les gens qui sont capables de faire des innovations majeures comme Steve Jobs a pu le faire, comme Elon Musk est en train de le faire, c'est des gens qui ont un système de pensée qui va même au-delà de la curiosité. C'est des gens qui sont dans le même état d'esprit qu'un enfant de 3 ans, ils prennent pas ce qui est là pour être quelque chose d'inchangeable, d'intouchable. Au contraire, il part du principe que ce qui est là au présent, c'est une chose, mais le futur peut s'écrire, le futur peut se développer et le futur peut être créé.
Non, j'allais rebondir sur les voyages parce que je sais qu'on a eu cette discussion quand on a parlé de ce podcast. Et on parlait, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, parce que le trafic aérien s'est libéralisé, donc on a tendance à voyager beaucoup plus loin aujourd'hui. Ouais. Et tu me disais effectivement qu'il n'y avait pas forcément besoin de partir très loin pour...
Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de partir très loin. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Ça veut dire que je suis sûre qu'aujourd'hui, si on part de Paris, qu'on prend un train à Montparnasse ou à Saint-Lazare, on peut se retrouver avec trois quarts d'heure, une heure de train dans un endroit qu'on ne connaît pas. On peut faire des expériences qu'on n'a jamais faites. Et on peut, à contrario, partir très très loin et finalement ne rien découvrir, ne rien rencontrer. Voilà, il y a eu un artiste comme ça qui s'est mis à faire des photos de 300 chambres, je crois, de Hilton, et en fait avec absolument le même genre de déco, le même lit, les deux tables de nuit, le tableau au-dessus du lit, voilà. Donc en fait, si on veut, on peut partir loin et ne rien découvrir, et on peut partir pas loin et rencontrer des gens, découvrir des choses, mais ça demande un... Oui, ça demande quelque part un état d'esprit. Je pense qu'il y a cette notion de curiosité qui aussi va quelque part, pour moi, avec une autre notion que j'aime beaucoup, qui est celle de la sérendipité. C'est en fait d'accepter les heureux hasards, d'être ouvert aux heureux hasards. Il faut savoir qu'en dans l'innovation, en fait, énormément de choses ont été découvertes comme ça. Les antibiotiques ont été découverts comme ça.
La tarte tatin.
La tarte tatin, ce qui est quand même bon, majeur, peut-être plus très à la mode en ce moment, mais bon, c'est important dans la culture française.
Le velcro.
Le velcro, voilà. Non, mais ça, il y a aussi le biomimétisme. C'est très intéressant. C'est en fait, regarder, en fait, la nature a énormément de choses à nous apprendre. Ouais. La façon dont les couleurs changent sur les ailes de papillons sont utilisées en maquillage. La façon dont les vers à soie construisent leur cocon est quelque chose de passionnant pour les architectes. Ça, c'est le biomimétisme. C'est aussi un terrain.
C'est génial.
Le velcro, c'est génial. C'est juste.
Il y en a qui se prend des trucs dans ses chaussettes en marchant dans la forêt.
Voilà. Mais ça veut dire, au lieu de dire, c'est casse-pieds, ça m'énerve, ça me met de mauvaise humeur, se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Je regarde, j'essaye de comprendre. Le micro-ondes, c'est pareil. J'adore cette... le micro-ondes, c'est génial. En fait, donc, l'inventeur du micro-ondes, il travaillait sur les ondes, mais les ondes longues. D'accord. Et en fait, ce type, en même temps, devait être un peu, comment dire, gourmand et amateur de chocolat. Et donc, il travaillait là-dessus et il avait une tablette de chocolat. Et puis, à un moment donné, sûrement, les choses ne se passaient pas comme il voulait. Donc, il s'est dit, je vais faire un petit prêt, je vais prendre un morceau de chocolat. Et là, il s'est rendu compte en fait que son morceau de chocolat était légèrement fondu, et au lieu de s'énerver, de mettre son chocolat à la poubelle et puis de se dire que vraiment c'était une journée pénible, il s'est dit mais pourquoi mon chocolat est fondu? Et là il a compris en fait que le travail qu'il faisait sur les ondes longues, il y avait aussi des effets qui se passaient avec les ondes courtes, et c'est comme ça qu'il a découvert le micro-ondes.
Ah, c'est génial, je ne connaissais pas l'histoire.
Donc voilà, juste un type gourmand, j'adore, avec du chocolat.
C'est cher.
Donc la sérendipité aujourd'hui, je dirais que c'est très important, parce que la curiosité, après, c'est un puits sans fond. On se dit, oui, mais alors s'il faut être curieux de tout le temps, mais j'arrête jamais, mais je m'angoisse, mais je vais passer à côté des choses. Ouais. Et c'est, évidemment, ce n'est pas possible. Et une fois, j'entendais comme ça un prof avant moi qui disait à ses élèves, il faut que vous ayez tout lu, que vous ayez tout vu. Et je me disais, mon Dieu, quelle horreur, comment tu peux dire ça à des élèves?
Savoir qu'on ne sait pas.
Oui, et puis tu ne peux pas tout lire, et tu peux pas tout voir, et tu peux pas regarder toutes les vidéos sur YouTube, faut arrêter.
Impossible.
Donc faut accepter la sérendipité. Ça veut dire faut accepter le hasard, et quand le hasard fait bien les choses, faut être ouvert. Encore une fois, en fait, on revient à l'ouverture qui donne la curiosité, qui donne la sérendipité, et c'est la sérendipité qui va permettre d'être un premier niveau de curation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut sélectionner, il faut accepter de sélectionner, accepter de pas tout voir, tout faire, être partout. C'est pas possible.
Mais malgré tout, parce que tu parlais tout à l'heure du web, moi je trouve que c'est une énorme critique qu'on fait aux réseaux sociaux, ça a tendance à encore plus t'enfermer dans ta bulle, c'est-à-dire que tu ne lis et tu ne vois que des gens qui sont comme toi, donc en fait tu as tendance à ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur.
C'est bien pour ça qu'il ne faut pas oublier le monde réel, c'est bien pour ça qu'il faut sortir, qu'il faut regarder ce que font ses voisins dans le train, dans le métro, dans l'avion,
et lire des magazines, ce que tu disais,
et lire des magazines qu'on n'a pas envie de lire, et qu'il faut il faut aussi je crois qu'il y a cette notion de sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que quelque part dans les réseaux sociaux on finit, moi de temps en temps j'essaye de m'efforcer à suivre des gens sur Twitter ou sur Facebook avec qui je partage pas beaucoup de choses, mais très vite il y a un moment où je craque et où je fais des unfollow parce que j'en peux plus. Donc mais voilà, il faut pas hésiter, et puis je crois qu'il faut sortir des idées préconçues. Je me souviens comme ça de moments où je me suis retrouvée absolument remise en question très profondément. Je mange pas de viande, mais depuis très très longtemps, depuis 40 ans. Et j'ai passé une très bonne soirée comme ça, dans un dîner à la campagne, avec un type à côté de moi qui était éleveur de chevaux, très sympa, mais venant d'un milieu un peu populaire. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, je lui demande comment il gagne sa vie. Et c'est là qu'il m'explique qu'il est boucher. Et là, je me suis sentie très bête parce que je me suis dit, donc voilà, c'est, tu viens de passer ta soirée avec un type sympa. Et en fait, ce type fait un métier que j'arrive même pas. Voilà. Donc, il faut aussi accepter de sortir de sa zone de confort.
Génial. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu auras envie de claquer la porte aujourd'hui ?
Je dirais deux choses. D'abord, arrêtez de dire la curiosité est un vilain défaut.
Ça, c'est clair.
Et la deuxième chose, c'est c'était mieux avant. Je supporte pas cette phrase. C'était pas mieux avant. C'était différent. Il y avait peut-être un peu des choses qui étaient mieux, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire et qui peuvent être mieux demain que franchement, j'aime pas cette phrase.
Génial. Voilà. Merci beaucoup.
De rien, avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.